Bonjour à tous, vous écoutez Fréquence Mistral, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Louis, bonjour à tous.
Au sommaire de ce 66e numéro de Force 7, face à la sécheresse et au manque d'eau, la préfecture et le conseil départemental des Alpes de Haute-Provence organisent les assises de l'eau à Digne. Présentation et interview dans ce magazine. Les maires du 04 restent inquiets sur plusieurs sujets. Reportage lors de leur congrès annuel dans un instant. À Digne, la 20e édition des coulisses du bâtiment a permis à des jeunes de visiter un chantier pour susciter des vocations. Le reportage d'Odile Frison pour Force 7. Chris Alessandri a rencontré le chef de la police municipale de Sisteron, Christophe Marthe, pour parler de son métier. Interview dans ce magazine. Un portail numérique pour développer la lecture publique dans les Alpes du Sud, l'interview d'Alain Delceau par Odile Frison dans un instant. À Manosque, la Fondation Carzou propose une plongée artistique dans le domaine des contes, des détails à la fin de ce magazine. Ressources en souffrance, l'eau aura ses assises à Digne.
Cet été l'a encore prouvé, le réchauffement climatique a des effets dramatiques sur nos ressources en eau. Nappes phréatiques au plus bas, rivières à sec et des besoins toujours croissants, les restrictions et interdictions sont récurrentes. Températures élevées sur de longues périodes, absence de neige et déficit hydrologique conséquent, tous les voyants sont au rouge. Un déficit pluviométrique de 60% et moins 16 mètres à Serre-Ponçon, du jamais vu. Fort de ce constat, la préfecture de Digne et le conseil départemental des Alpes de Haute-Provence organisent conjointement les assises de l'eau mardi 25 octobre à l'hôtel du département. Sur le même principe, notez que les assises de la forêt suivront le 16 novembre prochain. Pour l'heure, le public ciblé, élus locaux et communautaires, industriels, agriculteurs, mais également des gestionnaires comme la Société du Canal de Provence, il s'agit d'économiser et de mieux gérer l'eau ensemble. Plusieurs ateliers pour évoquer la sécheresse actuelle, des perspectives et solutions à mettre en œuvre, ainsi qu'une gouvernance interdépartementale à inventer et créer. Des assises pour mieux économiser et gérer une ressource essentielle à notre alimentation, notre santé, notre agriculture et qui concerne également la fréquentation touristique des Alpes du Sud. Avec Serre-Ponçon, la Durance et le Verdon, les départements alpins sont les grands pourvoyeurs en eau de la région. Mais alors que 04 et 05 connaissent des restrictions chaque été, ce n'est pas le cas, ou dans une moindre mesure, dans les Bouches-du-Rhône ou le Var, par exemple. Une anomalie que les agriculteurs alpins dénoncent, réclamant des efforts dans les territoires en aval de la Durance. Quand en plus vous ajoutez la problématique de l'eau potable en manque ou qui est polluée et des fuites importantes sur les réseaux dans bien des communes, vous avez tous les éléments inquiétants qui ont conduit à cet événement. C'est ce que confirme le préfet des Alpes de Haute-Provence, Marc Chapuis, et la présidente du département, Éliane Bareil. Marc Chapuis, vous êtes préfet des Alpes de Haute-Provence. Pourquoi ces assises départementales de l'eau ?
Alors, il nous a semblé, avec Madame Bareil, la présidente du conseil départemental, qu'il était important, après l'été que nous avons vécu, qui a été marqué par une sécheresse exceptionnelle, de pouvoir à la fois partager un retour d'expérience avec tous les acteurs concernés par le sujet de l'eau et en même temps nous projeter dans les années qui viennent pour voir comment faire face demain à des épisodes de pénurie d'eau, que ce soit pour l'alimentation en eau potable, pour l'agriculture, pour les usages touristiques de l'eau ou encore pour l'hydroélectricité. L'eau dans notre département est devenue une ressource, je dirais, qui rare à certains moments de l'année et il faut que nous regardions comment demain gérer collectivement l'eau pour faire face à cette pénurie qui peut arriver à nouveau dans les années qui viennent.
Vous avez lancé plusieurs invitations, notamment aux maires, mais aussi à la SCP par exemple et aux agriculteurs pour ces assises.
Absolument. C'est plus de 200 personnes qui sont invitées mardi prochain pour ces premières assises départementales de l'eau. L'idée, c'est finalement d'échanger entre les différents usagers de l'eau et de regarder comment on va pouvoir concilier ces différents usages demain. Ça nécessitera des investissements importants, ça nécessitera une prise de conscience généralisée, ça nécessitera aussi d'apprendre à être davantage économe de l'eau. Et c'est bien l'intérêt de rassembler tous les intervenants pour pouvoir construire ensemble cette gouvernance de l'eau demain.
Vous avez parlé des investissements et notamment les investissements dans les communes rurales à propos des réseaux d'eau. Et ça, c'est un problème qui est récurrent.
C'est un problème très récurrent parce que les investissements dont nous parlons se chiffrent à plusieurs centaines de milliers, parfois plusieurs millions d'euros. Et ils sont hors d'atteinte pour les communes rurales qui n'ont pas cette capacité, malgré les aides qu'on peut leur attribuer, de faire face à ces dépenses. Les réseaux d'eau, les réseaux d'adduction d'eau potable, ils ont souvent plusieurs dizaines d'années. Pour beaucoup, ils connaissent des fuites importantes entre l'eau produite et l'eau consommée. Eh bien, il y a pas mal de déperditions. Et donc, c'est vrai que dans les années qui viennent, nous aurons des programmes d'investissement importants à faire. C'est important aussi de voir comment les collectivités, comment l'État, au travers notamment de l'Agence de l'eau, peut se positionner pour accompagner les collectivités dans cette charge financière très importante qui est devant nous.
Ces assises départementales, c'est l'occasion également de l'État et du département de travailler ensemble.
Voilà, et moi je suis très heureux de l'excellente collaboration que nous avons entre Conseil départemental et État sur des sujets d'intérêt partagé. L'eau en est un, il y en aura d'autres demain, notamment sur la forêt. Nous prévoyons d'organiser des assises de protection de la forêt. C'est très important d'abord d'agir ensemble entre l'État et le Conseil départemental, mais aussi de montrer aux autres collectivités, les communes, les intercommunalités, que ces sujets ne sont pas réductibles à l'action d'un seul acteur. C'est en travaillant tous ensemble, en additionnant nos moyens, nos expertises, que nous arriverons à faire face à tous ces investissements et à ces sujets qui sont très complexes, très considérables. Et c'est en tout cas une vraie satisfaction pour le préfet que je suis de pouvoir travailler en bonne intelligence avec le conseil départemental sur ces sujets ô combien importants dans notre département.
À vos côtés, justement, Eliane Barret, qui préside le département des Alpes de Haute-Provence. L'eau, c'est un sujet que vous connaissez bien depuis 10 ans.
Oui, c'est un sujet auquel je me suis beaucoup attachée depuis que j'étais à la région en tant que vice-présidente et surtout depuis que j'ai participé aux réunions de Durance et Verdon. Donc c'est un sujet qui m'a toujours préoccupée. J'étais en charge de l'eau et des usages de l'eau par le passé. Donc je suis en plein dans mon élément et c'est pour la raison pour laquelle j'ai eu immédiatement l'idée de mettre en place les assises départementales de l'eau. Et avec monsieur le préfet, nous avons trouvé très vite un consensus et un partenariat qui nous permet de mettre en place ces assises ensemble pour avoir le maximum d'interlocuteurs et apporter des réponses.
Nous avons souffert cet été d'une situation particulière, mais qui risque de se répéter dans les années à venir, avec plusieurs restrictions. Et vous avez dénoncé la situation très paradoxale entre les départements alpins et puis, évidemment, le 13 et le 84. Je pense notamment à la plaine de la Croix, qui utilise nos ressources en eau, alors que nous sommes en restriction.
Alors, moi, je ne veux pas mettre l'accent sur la plaine de la Croix parce que nous avons affaire là à des éleveurs qui ont besoin d'eau, qui produisent un foin d'une qualité exceptionnelle et donc qui, bien entendu, réclamaient ce à quoi ils avaient droit par convention sur la Durance. Simplement, je veux mettre l'accent sur le fait d'avoir des restrictions dans les départements alpins et de ne pas en avoir du tout dans les départements voisins qui concentrent quand même la plus grande population. Donc, je pense que c'est cette prise de conscience que nous voulons obtenir de la part de l'ensemble des populations, pas seulement les agriculteurs, mais l'ensemble de la population qui utilise l'eau, et notamment, j'ai envie de dire, les gens qui ouvrent leur robinet sans faire très attention, alors que nous subissons 25 ou 30% de restrictions tout au long de l'été.
Et puis cet été, on a beaucoup parlé de Serre-Ponçon, mais assez peu du Verdon, qui lui aussi a été frappé.
Absolument, d'ailleurs, c'est ce qui a déclenché vraiment ma volonté de mettre en place ces assises de l'eau. Je trouvais qu'on parlait beaucoup de Serre-Ponçon, très peu des usages sur l'ensemble des départements alpins et particulièrement sur le Verdon. Et donc, il m'a semblé vraiment utile qu'on travaille aussi sur les territoires, mais vraiment sur les territoires, sur le Verdon en particulier. Je rappelle que le Verdon, c'est quand même notre bassin d'eau potable pour la région. Donc, j'aimerais vraiment sensibiliser l'ensemble des habitants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au fait que Alpes de Haute-Provence et Hautes-Alpes nous fournissons et que donc nous attendons en retour une certaine prise de conscience économique.
Qu'est-ce que vous espérez de ces assises?
Je crois que c'est en répétant les choses qu'on arrivera à les faire entendre. Donc ce que j'espère très sincèrement, c'est premièrement une prise de conscience de l'ensemble des interlocuteurs qui seront présents mardi 25. Et donc derrière, nous, des propositions que nous serons peut-être amenés à faire, que ce soit l'État ou le département, ou conjointement avec la région. Mais en tous les cas, que l'on prenne en compte un certain nombre de besoins pour mettre en place des dispositifs. Ça, c'est la première des choses. Et ce qu'on attend bien entendu derrière, c'est qu'au-delà des assises départementales, on aboutit sur des assises régionales qui, elles, évidemment, auront vocation à une prise de conscience complète sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Alpes de Haute-Provence, l'inquiétude des maires.
La baisse des dotations de l'État, les complications administratives et les réglementations contraignantes depuis plusieurs années minent le moral des maires et menacent même les vocations. Aussi, lors du congrès annuel départemental de l'Association des maires de France, l'inquiétude et la grogne s'invitent. Mais cette année, l'inquiétude est montée d'un cran. L'inflation, les prix de l'énergie ou l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires augmente la note pour les communes qu'ils doivent gérer. En face, la bonne volonté du préfet Chapuis, fervent partenaire du duo qu'il forme avec le maire, et ses arguments ont peiné à rassurer les édiles. Malgré les annonces et effets des plans de relance, de l'agenda rural, des dispositifs Action Cœur de Ville et Petites Villes de Demain, entre autres, le représentant de l'État s'est voulu apaisant, mais les maires subissent une pression grandissante. Soutenus par la région et le département, communes et intercommunalités voient la souffrance des soignants, l'éloignement des services publics et le désarroi de leurs administrés augmenter. La confiance reste fragile. Aux côtés des élus, la secrétaire générale de l'Association des maires de France, Muriel Fabre, elle-même maire d'une commune rurale en Alsace, affirme que l'AMF veut peser sur les décisions gouvernementales. Elle confirme la hausse de 11,6% des charges de fonctionnement qui est supérieure à l'inflation et dénonce une crise démocratique alimentée par l'impuissance publique. Je vous propose d'écouter le président des maires du 04, Daniel Spagnou, sur ces questions, mais aussi Jacques Depied, qui évoque les budgets limités, mais pas pour tout le monde, et les difficultés des communes à recruter des collaborateurs par manque d'attractivité. Daniel Spagnou, vous présidez l'Association des maires des Alpes de Haute-Provence. Les congrès des maires se succèdent et se ressemblent. Vous êtes toujours inquiet?
Oui. Quand même, ça ressemble, mais vous avez dû constater qu'il y a eu une inquiétude bien plus importante cette année que l'année dernière. Parce que l'année dernière, on n'avait pas les problèmes d'augmentation des denrées, d'augmentation du pétrole, d'augmentation de l'électricité. Tout ça, ça n'existait pas l'année dernière. On voit bien qu'il y a une inquiétude profonde de la part des maires. D'ailleurs, dans les questions également que je leur avais demandé de poser au préfet avant le congrès, à 80%, c'était la question, qu'est-ce qu'on va devenir au point de vue financier? Comment on va terminer l'année? Où on va prendre l'argent pour pouvoir payer nos factures? Parce que tout ça, on n'avait pas prévu au budget, bien sûr, en début d'année. Et puis qu'il n'y a pas une réponse pour le moment du gouvernement. Alors, on nous a été annoncé par le sénateur qu'en principe, il y aurait 22 000 communes sur 36 000 communes qui seraient aidées par l'État. Mais alors, les 22 000 communes les plus pauvres, et les autres n'auront pas d'aide, mais on va devenir pauvre très vite alors. Non, on est particulièrement déçus. Je pense aussi qu'on n'a pas eu les réponses qu'on attendait ce matin, ni des uns ni des autres. On aurait voulu qu'on nous dise, bien sûr, écoutez, ne vous inquiétez pas, le gouvernement va vous aider. Or, le vote du budget par le 49.3 fait que les amendements qui avaient été proposés par l'AMF, par le Sénat, n'ont pas été votés puisque le gouvernement est passé en force. Donc on n'aura aucune aide pour la fin de l'année et ça va être catastrophique.
L'intervention du nouveau préfet des Alpes de Haute-Provence, Marc Chapuis,
qui m'a l'air animé d'une volonté de dialogue avec les maires.
Oui, alors lui comme Violaine de Marais, veut le dialogue et la concertation. Il a redit là que le duo maire préfet était primordial dans les départements, qu'il allait continuer à se développer. D'ailleurs, il le prouve tous les jours parce qu'on a des contacts journaliers. Mais lui, il est obligé aussi de répondre aux sollicitations du gouvernement. C'est normal. C'est normal. Tous les préfets sont pareils. Donc, mais il va faire tout ce qu'il peut. En tout cas, il nous l'a dit et redit pour nous aider dans les moyens qu'il aura.
Parmi les interventions, j'ai remarqué celle de Patricia Granet concernant la santé. J'ai remarqué aussi celle de Sandrine Cosra sur la poste ou des besoins particuliers, spécifiques, et pas uniquement notre département.
Oui, alors Patricia Granet, là, m'a surpris d'ailleurs, parce que je ne pensais pas qu'elle ferait tout son discours sur la santé, mais comme elle est médecin, moi j'ai trouvé que c'était un éclairage très important pour nous, les maires. Notamment, on nous fait faire des maisons de santé de partout. Et comme elle dit, s'il n'y a pas de médecin à y mettre à l'intérieur, à quoi ça servira? Donc il va falloir quand même qu'on ait une réflexion là-dessus. Il faut que l'État nous aide à obliger des jeunes médecins à venir s'installer chez nous. C'est la moindre des choses. On leur paye des études pendant 10, 15 ans. Eh bien, ils sont redevables quand même à la nation. Eh bien, je pense que si on leur propose de venir 2 ans dans nos territoires ruraux, ils vont s'y plaire parce que la vie est très agréable chez nous. Et je suis sûr qu'il y a une grande partie de ces médecins jeunes qui resteront ensuite chez nous. Si on ne fait pas ça, dans 10 ans, il n'y a plus un médecin, même dans les villes. Moi, il m'en manque 3 assisteront.
Également l'histoire de cette dame âgée à Oraison qui demande à recevoir un recommandé. Ah mais non, ça ne se fait pas à la poste, mais ça se fait dans une grande surface. On marche sur la tête.
On marche sur la tête complètement, c'est scandaleux. En plus, ça a été fait sans consultation, sans rien, sans que Mme Cossera, qui est la présidente de la commission de présence postale dans le département, n'a pas été informée du tout par la poste. Ils se moquent de nous. Ils ont commencé à Oraison, on va le faire à Sisteron, on va faire de partout. Et le résultat, c'est que dans un an ou deux, on va nous dire on ferme la poste puisqu'il n'y a plus d'activité. Et on voit bien qu'il y a un problème dans tous les services publics de ce département, parce qu'on est un département rural et de montagne. Et bien l'État a décidé qu'on allait fermer les services, on n'avait pas besoin de tous ces services.
Jacques Despieux, vous êtes le maire de Mannes et président d'une communauté de communes. Vous siégez au sein de la commission des finances de l'AMF de France, l'association des maires de France. Vous avez évoqué les financements pour les collectivités, des financements qui continuent à baisser.
Oui, on peut dire que la rigueur est imposée aux collectivités territoriales et locales en particulier. Mais j'aimerais que cette rigueur soit équitable pour tout le monde. Je n'ai pas eu le sentiment que ce soit le cas, à la lecture de la loi de finances pour 2023, bien entendu.
Vous avez cité quelques exemples au niveau national, l'Assemblée nationale, la Cour des comptes.
C'est exact. 18% d'augmentation de son budget, un organisme de l'État qui montre du doigt les collectivités, je trouve cela assez saumâtre.
Vous êtes également en charge et vous connaissez fort bien les fonds européens et vous avez fait un appel, comme chaque année, aux élus pour monter des projets et bénéficier de ces fonds, ne pas les laisser partir à Bruxelles.
Ah oui, jusqu'à présent, j'avais le sentiment de plaider un peu dans le désert, de prêcher dans le désert. La région a pris le sujet à bras-le-corps et son président, qui a une bonne connaissance des fonds européens, a mis les bouchées doubles. Il a du personnel très qualifié, il a engagé les procédures sans attendre le feu vert de l'Europe afin effectivement de bénéficier pleinement des crédits. Il y a de vastes possibilités, il y a des moyens, il y a même à Digne une antenne avec Mme Bourguignon qui est prête à aider les élus. De tous ces éléments, de tous ces moyens, il faut en faire usage.
Vous avez également signalé que vous êtes à la disposition des maires ainsi que Laurence Angelvin.
Bien entendu. L'association des maires, à travers son président, Daniel Spagnou, est prête à les aider. Et moi, je suis bien sûr à la disposition de notre président et des membres de l'association.
Votre collègue Christophe Jacobi a évoqué le manque de personnel dans les collectivités, notamment dans les mairies, avec la difficulté de recruter. Vous partagez ce sentiment et cette alerte ?
Totalement. Vous savez que je préside aussi le centre de gestion et on mesure les difficultés. D'abord, pour reconnaître la qualité du personnel, les moyens salariaux qui ne sont pas très élevés et qui sont presque dissuasifs. Il y a des primes, mais les primes ont une valeur très virtuelle puisqu'elle ne compte même pas dans la retraite. Donc les salaires sont bas, les moyens de progression, de promotion très limités. Et justement, je pense que la question va se poser de voir comment on pourra reconnaître les mérites du personnel. Le centre de gestion, quant à lui, forme des secrétaires. Ça fait deux fois qu'on fait ça. On va relancer de nouvelles vagues de formation. On a eu, je crois, 18 personnes qui ont été formées, mais le problème des effectifs va se poser très rapidement car le renouvellement ne se fait pas automatiquement et on ressent un fort besoin, d'autant qu'aujourd'hui les secrétaires de mairie deviennent généralistes et spécialistes en tout parce que l'étendue des compétences qu'on leur confie exige un travail extrêmement important.
BTP, les coulisses du bâtiment ciblent les jeunes.
À l'occasion de la 20e édition des coulisses du bâtiment, collégiens, lycéens, jeunes des missions locales ou encore demandeurs d'emploi ont visité le chantier des jardins de Cuzin. Beaucoup de questions ont émergé lors de la visite guidée de ce chantier à Digne. Ce bâtiment, réalisé principalement par des entreprises locales, répond aux normes PMR, donc avec des aménagements adaptés aux personnes à mobilité réduite. Autre particularité, également, le chantier comprend des jardins partagés. Vice-président de la Fédération du BTP des Alpes de Haute-Provence, entrepreneur et promoteur des jardins de Cuzin, Clément Dubois répond aux questions d'Odile Frison.
Ce matin, vous avez eu la visite de nombreux collégiens, lycéens, des jeunes de mission locale. Combien de personnes vous avez accueillies et vous avez orientées?
Alors ce matin, alors déjà c'est un événement qui me tient à cœur. Moi je suis vice-président de la Fédération du bâtiment, donc c'est les coulisses du bâtiment qu'on organise chaque année. Cette année, on l'a organisé sur les jardins de Cuzin. Alors on a eu des collégiens, on a eu le lycée Gilles Lejeune, puis des personnes aussi demandeurs d'emploi, l'école de la dernière chance. Donc des publics variés et ça m'a permis de... sachant que déjà les collégiens, c'est quand même nos futurs compagnons dans une entreprise, donc c'est bien de les sensibiliser. Là, on a fait une présentation du projet avec une frise de photos du moment où on a commencé les travaux jusqu'à aujourd'hui. Donc ça a permis de comprendre aussi comment ça fonctionnait parce que pas tout le monde connaît comment ça fonctionne. Et après, passer à des visites où ils ont pu voir en concret ce qu'on leur avait expliqué et peut-être réveiller ou révéler des envies puisque maintenant, ils sont amenés à faire des choix professionnels beaucoup de plus en plus tôt. Donc c'est bien de les éclairer peut-être sur le bâtiment parce que je pense que c'est un métier qui est... c'est plusieurs métiers, le bâtiment, plusieurs corps d'état, plombier, électricien, charpentier, ça peut être étancheur, maçon. Et c'est des métiers où on est à la recherche de personnel. Et c'est surtout des métiers qui peuvent même accueillir, là je pense à des personnes qui sont en reconversion, on peut accueillir dans une entreprise des personnes qui sont sans qualification. Nous, ce qu'on regarde en priorité dans une entreprise, c'est le savoir-être, le savoir-faire, ça on s'occupe de former des personnes. Et dans le bâtiment, là, quand ils attaquent jeunes, ou même quand ils ont la volonté, on peut commencer, je prends un exemple dans mon entreprise, on commence à être étancheur, on peut finir chef d'équipe, on peut finir conducteur de travaux, on peut finir dans des bureaux d'études, avec des salaires très confortables. Le bâtiment, c'est quand même beaucoup simplifié maintenant, donc c'est beaucoup moins pénible. Enfin, moi, je le vois par rapport à la restauration, on travaille 5 jours par semaine, on a 5 semaines, les week-ends de libre. Donc je pense que c'est très attrayant. Et puis ce qui est important aussi de sensibiliser les jeunes, c'est surtout que là, ils vivent dans une ère où tout va vite, c'est pas toujours du concret. Là, le bâtiment, on part de zéro. Là, aujourd'hui, on est parti, pour le projet, on est parti d'un champ, et puis on a construit, on a monté le bâtiment. Donc ça, ça leur permet aussi de voir des choses, de faire de leurs mains des choses concrètes. Et je pense que ça, c'est important et c'est pour ça que ça les motive aussi.
Est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes dans le bâtiment, dans ces corps de métier, ou ça reste encore assez rare?
Alors, c'est quand même assez rare, mais on en voit de plus en plus. Alors, il y a des métiers peut-être qui s'y prêtent un peu plus, alors que maintenant, alors voilà, c'est parce que aussi tous nos corps de métier sont simplifiés. Donc, on n'a plus besoin de porter des charges lourdes. Là, il y a les charges maintenant des sacs de ciment de 50 kg sont passés à 25 kg. Donc, ça peut être aussi, une femme peut les porter. Où on retrouve de plus en plus de femmes, c'est tout ce qui est bureau d'études, conducteur de travaux, parce que c'est des personnes qui sont assidues par rapport à un homme, donc peut-être plus assidues, donc c'est des profils qui sont recherchés, et on les retrouve beaucoup dans les profils Bac plus 2, ou même à des niveaux même plus hauts, niveau ingénieur.
Et parmi le public que vous avez eu ce matin, vous avez senti un peu d'intérêt des jeunes, ça les amuse ou vous avez des questions de leur part?
Alors, j'avais pas vraiment d'attente. Moi, le but, c'était de sensibiliser. Et j'étais étonné parce qu'on a eu beaucoup de questions. Il y a certains publics, comme là, on avait Gilles Degène, eux, c'est leur formation sur le bâtiment, donc ils avaient plus de questions. Mais on a eu aussi Baudrochas, où pareil, eux aussi, c'est plus professionnel. Donc, non, je les trouvais très intéressé par le bâtiment. Et puis, pareil, on a pu échanger par rapport à leur expérience, ce qu'ils avaient fait, parce qu'il y en a certains qui avaient déjà des expériences dans le bâtiment. Donc, je pense que c'est un échange qui est très, autant pour eux que pour moi, c'est très, très concret et j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cet événement.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'apprentis dans le bâtiment ?
Les apprentis, c'est vrai qu'on en a de moins en moins, ça a quand même baissé. Nous, ce qu'on essaie, c'est de pousser des jeunes à l'apprentissage, hein, parce qu'il y a quelques années, c'était la voie de garage, alors que maintenant, on voit très bien que des jeunes sont beaucoup plus manuels qu'intellectuels, donc ils ont envie d'aller dans ces voies-là. Et puis l'évolution qu'ils peuvent avoir au fil des années, puisque toutes les entreprises forment leurs collaborateurs, donc de monter dans des postes plus importants comme chef d'équipe, même conducteur de travaux, bureau d'études même. Ça leur permet de commencer tôt et puis de rentrer sur le monde du travail et puis après évoluer au fil du temps. C'est la première promotion, les jardins de cuisine ici à Digne. J'ai voulu faire un bâtiment de qualité, donc c'est pour ça qu'on a pris à majorité des personnes, enfin des entreprises locales. C'est un bâtiment qui est assez spécifique, c'est un bâtiment qui accueille des jardins partagés potagers. Chaque propriétaire peut avoir accès aux jardins partagés potagers. On aménage des jardins, des parcelles de jardins, donc qui vont être variées de 15 à 20 mètres carrés, et chacun peut se faire son jardin. Donc ils auront un point d'eau, l'électricité, puis en plus nous on va les aménager pour que ça soit un lieu commun, pour qu'ils puissent se rassembler, manger ensemble, faire une chose sympa, qui va faire aussi du lien dans la copropriété aussi.
C'est assez nouveau quand on achète un appartement d'avoir la possibilité de faire son jardin.
Ben ça c'est nouveau. Moi ça me tenait à cœur parce que je trouve que alors, dans les acquéreurs, c'est des gens en majorité de plus de 60 ans. C'est des gens qui ont quitté ou vendu leur maison avec le jardin parce que ben, avec l'âge ou alors ils ne voulaient plus s'embêter avec un grand jardin. Et il y a certains qui sont venus acheter au jardin de cuisine en me disant on achète parce que vous avez des jardins partagés, potagers. On peut continuer à avoir une petite activité, notre potager, et puis voilà, ça reste sympa. Après, c'est un bâtiment de qualité. Au-dessus, on a voulu, puisque c'est dans l'air du temps, augmenter tout ce qui est isolation. On a fait une isolation intérieure et extérieure pour le confort d'été, confort d'hiver aussi. Et bien sûr, c'est un bâtiment qui est tout aux normes PMR, donc accessible à toute personne handicapée aussi. Donc, une personne handicapée chez nous peut, du portail jusqu'à son appartement, peut se déplacer en fauteuil roulant, tout à fait. Et même les pièces intérieures sont aménagées, les WC sont plus grands, les salles de bain aussi, pour qu'on puisse se déplacer avec un fauteuil roulant. Et ça, c'est pour tous les appartements. Donc là, on est sur 20 appartements qui sont à la vente. On a pratiquement finalisé toutes les ventes, il n'en reste plus beaucoup là. Maintenant, ça s'accélère parce que le bâtiment, on commence à y mettre des couleurs là sur les façades, donc ça fait poser des questions à pas mal de personnes. Je suis content parce que c'est un bâtiment, malgré tout ce qu'on a traversé, on a traversé le Covid, on a traversé des périodes qui étaient assez difficiles. On a quand même réussi à respecter nos engagements et les délais. Donc c'est un bâtiment qui sera livré en juin 2023.
Police municipale de Sisteron, démission pour la sécurité.
Chris Alessandri a rendu visite à Christophe Marthe, chef de la police municipale de la cité de Pollarène. Fort d'une expérience de près de 30 ans de service, ce dernier a enseigné en tant que référent professionnel pas moins de 17 domaines de compétences auprès des policiers municipaux en accord avec le CNFPT, Centre National de la Fonction Publique Territoriale. Son cœur de métier est la sécurité, prévention et répression et également parmi ses missions de terrain, l'intervention auprès de publics sensibles pour la protection judiciaire de la jeunesse. Christophe Marthe est coordinateur du CLSPD, Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, et actuellement, il est directeur de la sécurité publique locale de la ville de Sisteron. Comment fonctionne cette structure municipale? Les réponses de Christophe Marthe.
Le principe est simple. Vous avez en France deux juridictions, une administrative et une judiciaire. L'administrative, c'est du préventif. Le judiciaire, c'est du répressif. C'est un peu l'objet de mon discours dans les cours que je donne. Y a-t-il dichotomie entre la prévention et la répression? Absolument pas. Bien prévenir, c'est moins réprimer. Bien réprimer, c'est mieux prévenir.
Alors c'est vous qui êtes à la tête des hommes qui sont ici sur le terrain. Comment ça se gère au quotidien? Parce qu'il faut donner donc bien sûr des ordres, mais également rester proche de ces hommes tout en respectant une hiérarchie.
C'est pas compliqué. D'abord, on a la chance d'avoir un maire extraordinaire. Moi, je le dis en toute honnêteté, plus de 22 ans que je travaille avec lui, il a su me donner aussi les valeurs de l'humanité, du management. Dans mon management, j'essaye tout simplement, avec mes gars, attention, je dis pas mes gars, j'ai pas de titre de propriété sur eux. Ce que je veux dire, c'est avec les collègues de travail, j'essaye quand même de les diriger, mais toujours dans le respect de leur façon d'être. Et puis, vous savez, c'est un métier difficile, on passe plus de temps ensemble qu'avec nos épouses, avec nos enfants, avec... Et parfois, il y a des tensions, c'est mon rôle aussi de réguler tout ça, même si parfois c'est très dur. D'un pavé, on en fait un mur, on en fait un chemin, et ça va. J'ai une super équipe, et croyez-moi que personne ne les touche.
Cette passion, est-ce qu'elle est restée la même? Elle ne s'érode pas? Est-ce qu'il n'y a pas cette déception aussi que quand on essaie, par exemple, d'encadrer certaines personnes et que l'on voit finalement, eh bien, on retourne un peu au point de départ pour certaines personnes que vous essayez de remettre dans le, allez, on va dire, droit chemin, entre guillemets?
Ah, je remets personne dans le droit chemin. Moi, j'ai pour habitude de travailler sur un système qui m'est propre, qui s'appelle le COM, C-O-M-E. Il s'agit pour tout problème de faire un constat, se définir des objectifs, prendre les bons moyens, et quand on évalue, on sait qu'on a réussi. Si on n'a pas réussi, ce n'est pas à l'autre à se mettre en question, c'est à celui qui a décidé du com. Donc dans le constat, il faut être clair, être honnête avec les gens, se définir des objectifs qui soient efficients, de se donner des bons moyens, et après, à partir de moment-là, parfois c'est long, parfois ça fait mal, mais ça fonctionne.
Comment se passe une journée? Allez, le quotidien du policier que vous êtes, chef de la police municipale?
Oula, c'est compliqué.
Un jour ne ressemble pas à un autre, si j'ai bien compris.
Absolument, c'est ça qui est diablement intéressant. Hein. Et puis c'est pareil pour moi, et puis le groupe que j'ai l'immense honneur de diriger, c'est au top. J'ai des gens qui sont vraiment au top, ça je veux le dire, même si parfois ils ne le ressentent pas, parce qu'il m'arrive parfois d'être dur. Mais c'est vraiment des gens extraordinaires aussi. Sinon ça ne marcherait pas, Sisteron, comme ça fonctionne. Nous sommes d'accord. On a combien? 200 manifestations par an d'occupation domaine public, comment on fait? Toujours dans la discrétion. Et voilà, et cette reconnaissance, il est nécessaire de leur dire. Alors ma journée, c'est pas compliqué. J'arrive, déjà je me sers un café, parce que je vais avoir besoin un peu de caféine, comme mes collègues, parce que la journée qui nous arrive, on ne sait pas de quoi elle va être constituée. Donc je structure le travail par rapport aux tâches que j'ai déjà anticipées. Donc on sait qu'on a du funéraire, on sait qu'on a du convoi exceptionnel, on sait qu'on a des accueils protocolaires, on sait qu'on a des occupations de domaine public à pérenniser pour éviter que des gens soient dessus. On a dans le même temps des appels qu'il nous faut traiter sur des stationnements gênants. Peu importe, ça c'est la structure. Donc on attaque notre journée, café, briefing. Donc on se retrouve tous autour de la table. Ceux qui sont là sont là, ceux qui sont pas là sont en récupération, ils ont mérité d'ailleurs, hein. Repos mérité. Et puis ceux qui sont là, ils se mettent, hein. Ils se mettent au boulot. Et moi, je guide un peu tout ça, puis je vais aussi parfois avec eux. Mais finalement, avec les années, c'est eux qui vont sur le terrain. Et puis après, on s'adapte. L'adaptation, c'est une base essentielle dans notre métier. Plusieurs adaptations. L'adaptation technique par rapport aux événements qui se passent. Est-ce qu'on a le véhicule? Est-ce qu'on l'a pas? Par rapport, par exemple, à un convoi exceptionnel. Et puis surtout, l'adaptation humaine. On reçoit du monde dans notre service et le discours est important. Comprendre cet aspect psycho-relationnel est de toute façon évidente. Voilà, mais bon, la passion, vous savez, quand on aime, on ne compte pas.
La routine, c'est pas fait pour vous ni pour votre équipe, visiblement.
Ça, il n'en est pas question.
Justement, Christophe, ce contact avec cette jeune délinquance que vous rencontrez également, comment se fait-il? Est-ce que le message passe? Est-ce que vous mesurez un peu l'impact de ce travail en amont que vous essayez également de faire, hormis la sanction, bien sûr?
Il n'y a pas de sanction, on est dans la prévention. Je vous ai parlé de dualité juridictionnelle. Prévention, répression, rien n'est dichotomique. Vous savez, quand vous rentrez dans une salle, que vous avez des gens face à vous, comme les gens que je forme au Centre National de la Fonction Publique Territoriale. Je suis formateur des policiers municipaux depuis 17 ans. Vous savez, les gens, quand vous rentrez habillés ou pas, en tenue de policier, ils ont ce regard sur l'homme malgré tout. Et quand vous serrez, vous tendez la main à des jeunes primo-délinquants qui vous regardent en disant qui c'est lui, et qu'à la fin, ils vous serrent la main et ils disent à très bientôt que vous les recroisez dans notre belle cité qu'est Sisteron, et qu'ils vous disent « Comment ça va, chef ?» Mais c'est un plaisir immense. Et on rattrape des gamins malgré tout. Mais même si on rattrapait un gamin sur 20, on a gagné. Et retenez une chose, c'est ce que je dis pour mes policiers, c'est ce que je dis pour chacun des gens que je rencontre. L'homme est respectable pour l'homme qu'il est et non pas pour la tenue qu'il porte. J'ai fait partie d'une promotion quand j'ai fait ma formation initiale d'application des chefs de service, qui était pendant 12 mois à Toulon, au domaine de la Valette. J'ai fait partie d'une promotion qui s'appelait la promotion Léonard de Vinci. Regardez le schéma. Quand l'homme est équilibré, tout roule.
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au chef de la police que vous êtes ?
D'être un heureux futur grand-père de ma deuxième petite fille et que surtout mes gars continuent à me faire confiance.
Entrer dans la lecture publique.
C'est ce que propose la médiathèque départementale via un portail de ressources numériques. La démarche est unique en France. Alpes de Haute-Provence et Hautes-Alpes se sont unis en 2019 pour établir un plan de développement de la lecture afin d'étendre et renforcer l'accès à la culture pour tous. Un dispositif qui passe par l'animation des réseaux de lecture publique. Dès la fin du mois d'octobre, le portail sera accessible pour permettre aux usagers des bibliothèques du réseau départemental de consulter les ressources numériques en ligne sur leur ordinateur, tablette ou smartphone. Livres, BD, journaux, mais aussi CD ou vidéos, tout est disponible en quelques clics. Conseiller départemental et délégué à la culture, Alain Delceau répond aux questions d'Odile Frison.
De nos jours, le numérique prend une part de plus en plus importante et influe sur nos pratiques liées au savoir et à la culture en général. C'est dans ce contexte que les bibliothèques publiques peuvent jouer un rôle important de médiation auprès des publics sur les contenus culturels ou éducatifs. Le projet donc a été mis en place en collaboration avec le département des Hautes-Alpes et a été initié en 2019 dans le cadre d'une politique commune active de développement et de renforcement de l'accès à la culture pour tous via l'animation de lecture publique. Je dois souligner que c'est unique en France le fait que deux départements se soient associés pour lancer ce portail de ressources numériques.
04 et le 05.
C'est ça, tout à fait, c'est unique. Dans le cadre d'un schéma directeur territorial donc de numérique et répond à la politique volontariste et stratégie pour l'aménagement numérique de notre département. Le coût pour la collectivité, je parle du département, est de 152 000 euros. C'est un site par département avec une offre numérique mutualisée. L'accès est gratuit pour les usagers abonnés des 88 bibliothèques desservies. Ce qui fait aujourd'hui dans nos bibliothèques, c'est 14 400 personnes qui sont inscrites. Il suffira donc pour tout usager de s'inscrire dans une des bibliothèques de son secteur et de pouvoir prétendre à une fiche avec un code d'accès et pourront librement et gratuitement accéder à l'ensemble de ce portail numérique. L'ensemble du portail est gratuit dans ce cadre-là.
Et c'est un fonctionnement simple et intuitif.
C'est tout à fait, absolument. C'est un site responsable, simple et intuitif, effectivement. Et en complément, les bibliothèques vont se voir proposer des valises qui sont constituées par la médiathèque départementale et qui permettent le montage d'ateliers autour du numérique. C'est de la robotique, de la programmation et des jeux vidéo, des casques de réalité virtuelle.
J'aimerais en savoir plus sur la médiathèque départementale, puisque
oui,
c'est à ne pas confondre. Elle était anciennement située aux Augiers.
C'est ça. Pour des problèmes de bâtiment, les personnels ont été retournés sur le bâtiment François Mitterrand, donc c'est un bâtiment départemental en rez-de-chaussée, dans lequel ils occupent les mêmes fonctions que ce qu'ils avaient là-bas, bien entendu avec un peu moins d'espace qu'aux Augiers, mais les Augiers étant déclarés insalubres en fonction de fissures et de risques d'inondation. Ce bâtiment, donc le personnel, a été transféré au François Mitterrand. Néanmoins, sur les Augiers, nous avons encore dans certains endroits des livres qui sont encore stockés. Ce sont des bâtiments départementaux. C'est dans l'immeuble François Mitterrand, c'est un grand immeuble qui est situé à proximité des archives départementales, mais qui est au rez-de-chaussée.
Et cette médiathèque François Mitterrand n'est pas accessible au public ?
Dans l'immeuble, elle n'est pas accessible au public, elle est accessible aux professionnels, à toutes les personnes qui sont responsables des bibliothèques ou médiathèques. Mais bon, Magali Roux, qui en est la directrice, assure bien entendu des réunions à l'extérieur, dans des salles de la commune de Digne, quand on doit réunir l'ensemble des bibliothécaires. Sachant que dans le cadre de la mise en place de ce portail numérique, il est évident que le personnel de la médiathèque va se rendre dans chaque bibliothèque ou médiathèque du secteur pour expliquer, pour déposer des valises, pour travailler en termes de médiation et surtout leur expliquer comment fonctionne ce portail numérique. Voilà, ça c'est le service de la médiathèque départementale, d'aider les petites bibliothèques dans tous les secteurs. Donc on attend beaucoup, hein. C'est un superbe projet qui a été dévoilé, bon, qui sera mis en application je pense que d'ici un mois, hein, parce qu'on a encore quelques réglages à faire au niveau du recueil, notamment informatique, mais d'ici un mois ce portail sera totalement en fonction. Alors on parle de la médiathèque de P2A par exemple, de l'agglomération où l'abonnement est de 13 € par an. Je crois, hein. Donc pour un abonnement à 13 € par an, vous pourrez avoir accès. Par contre, quand vous prenez, par exemple, la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon, hein, sur le secteur de Castellane, vous avez la gratuité, puisque la communauté de communes avait pris la compétence culture et patrimoine et donc a décidé la gratuité d'accès aux bibliothèques, aux médiathèques de la communauté de communes. Donc à partir de là, si vous adhérez à une bibliothèque de Saint-André-des-Alpes, Castellane, Alos ou Anotte ou Entrevaux, eh ben vous aurez la gratuité d'accès à ce portail numérique. Et il est évolutif, hein, bien entendu, on ne va pas garder l'ensemble des choses. Une petite différence par rapport au 05, le 05 a mis un pavé patrimoine qui n'existe pas encore sur le 04, mais pour lequel nous allons travailler à avoir un pavé qui va nous permettre d'aller de consulter le patrimoine du 04 et qui est très vaste, hein, vous le savez, puisque je suis en même temps, je suis un peu chauvin, mais je suis président du syndicat mixte des villages et cités de caractère. Donc, pourquoi pas ne pas inclure à un moment donné nos villages cités de caractère, mais pas que, dans ce pavé.
Les contes entrent à Carzou.
La Fondation Carzou propose Terre de contes dans ses salles d'exposition jusqu'au 5 novembre. Et si la Fondation Manoskine nous habitue à des accrochages magnifiques, c'est encore le cas. Mais en plus, ce sont des créations de personnes et ressources locales qui sont sur ces 6 mèzes. L'association de graveurs manosquins Empreinte 04 a investi les lieux avec brio. Les œuvres exposées font référence à notre planète ainsi qu'à l'univers des contes et des travaux d'élèves de Manosque et Sainte-Tulle sont accrochés à proximité des gravures des adultes. Bousculé par les Harry Potter, Batman et autres Pikachu, l'univers des contes est moins familier aux enfants d'aujourd'hui qu'aux générations précédentes. Et pourtant, Barbe Bleue, Cendrillon ou Le Petit Poucet, par exemple, restent passionnants pour un jeune public, à condition de l'y amener. C'est un des aspects positifs de cet événement que des visites scolaires et des animations spécifiques complètent fort justement tout au long de l'exposition, à l'instar de ces parties de jeux de loi géants tous les samedis à 15h. Je vous propose d'écouter Aude Mazel pour la Fondation Carzou et Elisabeth Salmon qui représente l'association Empreinte 04. Aude Mazel, la Fondation Carzou invite l'association Empreinte 04 jusqu'au 5 novembre.
Oui, tout à fait. C'est un projet que nous avions déjà depuis longtemps en tête, qui nous tenait vraiment à cœur. C'est une association voisine, tant sur le plan géographique par rapport donc à leur au contenu même de leur action. Et il se trouve que là, nous avions la possibilité de les accueillir en cette période, et nous sommes très heureux donc de pouvoir montrer leurs œuvres qui sont extrêmement abouties et extraordinaires, donc au plus grand nombre.
Les salles voûtées sont dédiées à l'imaginaire du conte et aussi à la beauté de la terre.
Exactement, deux thématiques qui, dans un sens, ne nous paraît pas si proches que ça, mais qui, au final, parviennent à dialoguer de manière extrêmement visuelle et très attractive. C'est vraiment un beau dialogue.
Quel regard vous portez à la fois sur cette exposition, mais aussi sur vos partenaires de cette exposition, l'association Empreinte 04 ?
Ben moi, je suis très, très admirative de l'association Empreinte 04 qui, depuis donc maintenant 20 ans, fait un travail vraiment très abouti et extraordinaire. On voit une réelle progression. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il s'agit d'une association d'amateurs, mais plutôt de professionnels. Je suis extrêmement fière, je pense que la présidente l'est aussi, donc de les accueillir en nos murs. C'est une exposition vraiment de qualité. C'est une des plus belles expositions que nous ayons accueillies. Donc nous sommes ravis.
Vous allez accueillir le public, bien sûr, mais vous allez aussi accueillir des scolaires.
Nous espérons, oui, tout à fait. Si une exposition sur les contes ne parvient pas à attirer les scolaires, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Donc nous allons, faire la promotion en ce sens. Nous comptons sur la presse pour relayer l'information. Mais je pense vraiment qu'ils vont répondre à l'appel parce que nous savons que... Enfin, nous travaillons déjà en étroite collaboration avec les établissements scolaires de Manosque et de la DLVA. Donc je pense que bientôt, plein de petites têtes, de jeunes petites têtes, viendront animer la fondation.
Je vais tendre mon micro à deux responsables de l'association Empreinte 04, Elisabeth Salmon et puis Marilyn Viard. Elisabeth, comment avez-vous sélectionné les gravures que vous exposez à la Fondation Carzo ?
Eh bien, en fait, on n'a pas sélectionné vraiment les gravures que nous avons exposées. C'est surtout les artistes de l'association qui se sont beaucoup impliqués et en fait... Le travail a été merveilleusement fait et il y a des choses assez incroyables, assez rigolotes, voilà. Et non, ça a été vraiment très très bien, très positif. Ça a été un grand moment aussi de partage, de réflexion ensemble, d'animation pour l'atelier, vraiment super.
Vous avez également sollicité des enseignants des écoles de Manosque et Sainte-Tulle. Marilyn Viard, comment ça s'est passé ?
Alors, nous avons contacté les enseignants à la fin de l'année scolaire précédente pour que les enseignants justement aient le temps de réfléchir au projet et à ce qu'ils voulaient faire avec les enfants. Quatre classes ont répondu favorablement. Ça leur a demandé un travail assez difficile parce qu'ils n'ont pu travailler avec les enfants que depuis la rentrée scolaire qui est très proche. Mais comme c'est un bon début d'année avec eux pour s'approprier la classe et faire une belle cohésion dans les classes. Les contes, c'est vraiment quelque chose qui touche les enfants. Alors, pas autant qu'on pourrait croire, parce qu'il y a une culture des contes, et donc ils ont fait découvrir aux enfants des contes différents de ceux qu'ils entendent habituellement. Donc, ça a été un travail très intéressant et d'un point de vue pédagogique. Et donc, ils ont produit des choses très intéressantes, tant au niveau des textes que des illustrations.
Et vous allez proposer aussi chaque semaine un jeu de loi très particulier.
Oui, c'est un jeu de loi qu'on a fait il y a quelques années. C'est un très grand jeu de loi avec des cases de 50 cm sur 50 et qui a 63 cases et des pions en forme de personnages. Et voilà, donc c'est tous les samedis après-midi sauf aujourd'hui. Donc le jeu sera étalé par terre et pourront jouer tous ceux qui veulent.
L'exposition est ouverte à la Fondation Carzo. Vous allez également accompagner cette exposition avec vos camarades de l'association.
Oui. Oui, tout à fait. On sera là tous les jours, on fera la garde, ce qui nous permet de discuter avec le public et les gens et de présenter notre travail un peu mieux.
C'est la fin de ce magazine. Merci François.
Merci Louis pour la régie et à bientôt.